Alors, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12. Eh oui, ah oui, alors si c'est jeudi... Ça ferme pas bien.
C'est toi qui ferme pas bien.
C'est moi qui ferme pas bien. Je dis bonjour.
Bonjour. Comment ça va?
Et vous-même?
Eh bien, pas mal.
Bonjour.
Bon bye, Anthony, Radio MDM. Homme Radio MDM qui est en train d'enregistrer, je le vois.
Ah, oui. Mais même pas discret. Comment ça va?
Bien, et toi?
Bien.
Voulez-vous un café?
Volontiers. Sinon, vous n'avez toujours pas le dernier livre de Jean-Christophe Cambadélis. C'est pour mon DRH.
Sinon, on a le prince Harry, si tu veux.
Sinon, il y a le prince Harry.
Oui.
Et entre des histoires de prince et des histoires de secrétaire de l'UPS.
Ouais, c'est pas mal.
Ça reste des contes.
MDM, tout un monde.
Il est bien, ton bouquin. Casse pas des briques. Il tient. Je comprends rien.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Je vais peut-être dire une bêtise, La Peste.
La Peste, ah non. Ah oui, si, c'est Zola.
C'est Camus.
Camus, ah bon, bon.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
C'est donc vrai ce qu'on dit? Vous n'avez pas le dernier livre de Jean-Christophe Cambadélis? Bonjour Anthony Clément.
Il est en livraison.
Ouais. Vous êtes au courant de ça? Alors c'est Hier, aujourd'hui et demain, une vie politique dans le roman de la gauche. Et donc il a vendu deux. Vous avez appris ça? Mais comment c'est possible dans le monde d'aujourd'hui avec des gens qui ont eu des responsabilités? Bon, ils en ont moins. Le livre politique, comment ça marche?
Deux,
c'est possible?
C'est un fake, ouais.
Ouais, non, il en a vendu deux.
Avec 3500 librairies indépendantes qui prennent généralement quand même les nouveautés, notamment les nouveautés politiques en ces temps.
Mais comment on peut, sur tout le territoire, c'est quand même grand la France.
Là, j'avoue que deux, ça m'étonne. Faudrait que j'aille fouiller les chiffres véritablement, s'il y a au moins des collectivités, des médiathèques qui les prennent pour archives, quoi.
Oui. Bon, écoutez, on n'est pas là pour parler politique. On va parler de vrais livres, ça, si ça vous fait rien.
Bon, déjà, une tendre année, une heureuse année.
Ah ben oui, on ne s'est pas vu.
À Radio MDM.
Bonne année politique, bonne année commerciale, bonne année...
Toutes ces équipes, ouais. Et puis vraiment aux auditeurs, aux auditrices, et merci de nous écouter, de nous faire vos retours, parce qu'il y a aussi une vie en dehors des chroniques, et souvent on en parle. Donc merci pour votre écoute et merci pour vos partages. Voilà. Petite chose avant d'échanger sur les deux coups de cœur de ce matin, aussi une immense pensée pour Russell Banks.
Oui.
Qui est décédé le 8 janvier. Voilà, un auteur qu'on a souvent soutenu. Son dernier, son roman testamentaire, paru chez Actes Sud il y a quelques mois, qui s'appelle Au Canada. Voilà, je le recommande à tout le monde. Ouais. C'est un des grands, grands livres de Russell Banks, un des plus grands, aux éditions Actes Sud. Ça, c'était pour la pensée, en ce début d'année. Bref, le Canada, justement.
Oh, transition.
Transition, puisque là, je vais parler d'un livre d'un auteur québécois, montréalais, Jean-Paul Eide ou Eide, oui. Pour faire très bref au départ, dans la catégorie sentiments, c'est pour moi un des trois meilleurs livres que j'ai lus l'an passé, véritablement livre, et je dirais pas une des trois meilleures BD, parce que je l'installe vraiment dans les livres en général. Quoi.
D'accord, ouais. Carrément.
C'est pas
parce
que c'est une BD...
Genre à part.
Ouais, c'est pas genre à part, une des trois meilleures BD lues l'an passé. Non, il s'intègre dans la grande histoire des livres, pour le coup. Il me fait penser à Là où vont nos pères, par exemple, de Shantown, qui avait eu des grands prix, à une BD sans dialogue. Ouais. Bref, là, Jean-Paul Eide, aux éditions La Pastèque, ça s'appelle Le Petit Astronaute. L'auteur, lui, normalement, est plutôt dans l'humour. Il avait collaboré à la revue humoristique Cro.
Je vois Walou en BD, il fait de la méta-BD, j'ai lu, je sais pas ce que c'est.
Oui, alors on peut parler de magicien de la méta-BD, pour ce sens où il avait écrit Le Fond du Trou, et un trou était véritablement dans la BD, ce qui permettait au personnage de voyager dans la BD et de voyager dans le temps. Voilà.
Waouh.
Là, il revient avec une forme d'autofiction, il est pas dans l'autofiction, mais là, par la virtuosité de sa narration, de son récit, de son scénario, et surtout au plan visuel de ses dessins, dessin, il arrive à mettre un peu de distance. Donc en fait, l'histoire est assez simple. Juliette, une vingtaine d'années, a l'habitude, un peu chaque année, de passer en vélo dans son ancien quartier, repassant devant son ancienne maison. Et là, il s'avère que lors de son passage, eh bien, en fait, la maison est en vente et il y a une visite libre. Donc elle entre. Et ça va en fait faire ressortir tous ses souvenirs de jeunesse, les souvenirs de sa famille, les souvenirs de ses amis, tous les petits bonheurs passés dans cette maison, mais aussi et surtout la venue de son petit frère. Et rien que d'en parler, j'ai vachement d'émotions, c'est vraiment...
Mais c'est
assez impressionnant. Je sais pas pourquoi ça doit me parler au fond des tripes, et ça a dû parler à pas mal de gens au fond des tripes.
Bah, dis donc.
Où le petit astronaute est donc la figure métaphorique de son petit frère, l'arrivée de son petit frère. Ça va vous plaire puisqu'il est appelé Major Tom.
Ok.
Petit astronaute parce qu'en fait il naît lourdement handicapé.
Ouais.
Donc il ne marche pas, parle pas.
Ça devient une expression maintenant, Major Tom. Hein. Rentrer dans la vie courante.
Ouais. Donc c'est vrai qu'elle a l'habitude de dire dès le début qu'il est sur la Lune, mais plutôt dans la Lune en fait quelque part. Et donc le Major Tom est évidemment la référence à David Bowie et à ces années-là. Donc en fait, elle raconte l'histoire de son petit frère lourdement handicapé, mais c'est jamais misérabiliste, jamais voyeur, jamais... Enfin voilà, c'est vraiment... c'est à la fois extrêmement tendre et très très dur dans le propos, parce que c'est dramatique, c'est très très beau et sombre à la fois... du fait encore de ce drame, mais c'est surtout essentiel pour comprendre la vie de ces familles. Et on va justement voir l'évolution de sa famille, le choc évidemment de la nouvelle, et puis l'adaptation, et après l'humain qui reste chez nous avec les gens qui accompagnent ces enfants handicapés, qui en deviennent amis. Voilà, c'est très très bouleversant, très très touchant. Ça s'appelle Le Petit Astronaute de Jean-Paul Eide, E-I-D. Et c'est aux éditions de La Pastèque, on n'en a plus qu'un. Mais on a plein en livraison.
On va faire une pause pour se remettre quand même, mais on va rester dans le même registre. Vous m'avez fait une transition parfaite pour un événement ce vendredi soir à la Mamiselle à Sobrigue, qui accueillera le groupe Astéréotypi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce collectif. Plein de gens, j'allais dire plein de programmateurs se sont fait entre guillemets, j'allais dire avoir, ou ont été surpris de découvrir que le groupe en question est composé de musiciens autistes, encadrés par d'autres musiciens du groupe Moriarty. Et le groupe Astéréotypi est en train de tout fracasser sur son passage. Ils seront à la Mamiselle de Sobrigue. Leur morceau phare, ça va vous plaire, le titre, ça s'appelle « Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme ». Si c'est pas un titre de bouquin, ça, hein ?
C'est magnifique.
C'est totalement survolté, c'est génial, c'est Astéréotypi, c'est à 20h30 à la Mamiselle à Sobrigue. On fait une pause avec eux, on se retrouve après.
Ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Mais Kevin, crétin de Secret Story 3, oui. Il paraît qu'il a coupé ses cheveux, c'est imbécile. Mon cousin par alliance, par moment, ressemble à Brad Pitt. Mais il n'a pas les mêmes muscles. Michael Vendetta ne ressemble pas à Brad Pitt, même s'il est blond. Il est nunuche, c'est un connard, il ne mérite pas de gagner la fame de célébrité. Son métier, c'est de faire le buzz. Il a la même voix que Sting dans le dessin animé Fairy Tail. J'ai partagé ma chambre avec ma copine Léa, qui ressemble à Scarlett Johansson en rousse. Nicolas, mon mono de ski à la plane, ressemble à Hayden Christensen. Je crois qu'il est célibataire, mais je n'avais pas le niveau de ski pour me marier avec lui. Je ne l'oublierai jamais. Aucun mec ne ressemble à moi, vite dans la drogue.
attention, événement à Stéréotypie, ce vendredi soir, vendredi 13, à 20h30, c'est à la Mamizelle, à Sobrigue. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler, ce groupe composé, je le disais, de musiciens autistes qui viennent de la région parisienne. Revenons à nos livres, Anthony Clément.
Un autre titre, Sauvé des limbes de l'an passé.
Ouais.
Voilà, bon, c'est vrai que j'aurais pu vous parler de... puisque
maintenant... Il n'y a que 52 semaines.
Oui, voilà, puis janvier est devenu une autre rentrée littéraire. Ouais. Mais ça va, mes collègues ne manqueront pas de vous en parler sur les émissions prochaines, la sortie du dernier Le Maître ou autre,
oui,
évidemment. Ouais. Il n'empêche que les fêtes de fin d'année permettent à des libraires d'avoir deux jours fériés, voilà, le 25 et ouais, le 1er, et donc de lire un peu.
Oui, mais voilà, comme ça.
Après des semaines sans jour de repos.
Je peux pas tout faire avec Wikipédia.
Voilà.
Quoi,
et de revenir, justement, puisque ça se calme un peu, le rythme se calme un peu, voilà, de revenir vers des choses qu'on avait mis de côté, et là j'avais mis de côté Point de fuite d'Elizabeth Brundage, donc qui avait marqué les esprits il y a quelques années avec Dans les angles morts. Arlan Coben en dit de ce titre que je vais vous présenter, donc un livre à savourer, superbement écrit. Je ne connaissais pas Elizabeth Brundage, me voilà un grand fan, mais je peux dire exactement la même chose. Donc ça s'appelle Point de fuite, c'est aux éditions Quai Voltaire. Pour résumer, on pourrait appeler ça une sorte de thriller psychologique nostalgique lent. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est assez étonnant. On est vraiment dans l'enquête. Il y a une disparition dès le début, la disparition de Ray, qui est un des personnages principaux.
Si mais la quatrième de couve, il y a un sentiment de déjà-vu.
Ouais.
Mais sauf que si vous nous en parlez, c'est qu'il y a autre chose.
Voilà, exactement. Il y a évidemment une construction que l'on connaît, une construction en roman choral. On va d'abord entendre la voix de Julianne. On est à la troisième personne, un des personnages principaux. Je suis désolé pour le.
J'avais oublié celle-là.
Téléphone.
Ah, ça m'avait manqué.
C'est bon. Puis il s'enchaînera. Juste derrière Julianne, de mémoire, le personnage de Ray, donc ce sont les deux hommes un peu incontournables du texte. Puis Simone viendra donner sa parole, aussi avec des chapitres très longs, hein, justement, on rentre dans la psychologie des personnages. Puis Ray reviendra, et Magda apparaîtra, puis le fils de Magda et de Julianne, mais est-ce que c'est vraiment leur fils? Je peux pas trop en parler. En tout cas, la voix de Théo qui viendra. Donc ce roman choral, en fait, forme, annonce, met en place une histoire avec des personnages très intrigants, avec une métaphore. Pour ça, ça s'appelle Point de fuite, c'est qu'il y a une sorte de métaphore en filigrane de l'art de la photographie. C'est-à-dire que le roman, comme l'art de la photographie, comme la société, en fait, se bouleverse, change, et on le voit, des choses qu'on croyait enterrées ressurgissent, des relents ressurgissent. Voilà, on n'est pas encore dans cette démocratie, dans cette humanité pleine et entière que tout le monde espère. On revient encore, ne serait-ce que la guerre en Ukraine, les crises multiples.
Ouais.
L'art de la photographie, c'est un peu ça aussi. On a senti avec le numérique, depuis les balbutiements des plaques de verre, en passant par la pellicule jusqu'au numérique, il y a non seulement un bouleversement technologique, mais aussi un bouleversement du regard, regard qui commence à se centrer. Et on oublie un peu, comme en peinture, évidemment, les techniques et le point de fuite, justement, et comment, en fait, une vérité change quand on change le regard ou quand on change la lumière d'une photographie et donc d'un roman. Quand il y a une multiplication des focalisations dans le roman qui apporte une grande, grande maîtrise. C'est une écriture extrêmement travaillée de la part d'Elizabeth Brundage. Et ce qui est étonnant, c'est que le premier chapitre, avec ce premier personnage, Julianne, en fait, on pense qu'on ne va pas le continuer. C'est assez lourdeau. Voilà, c'est bien écrit, mais sans plus. Et en fait, le second chapitre, la voix de Ray, puis celle de Simone, de Magda, puis de Théo, en fait, apporte au fur et à mesure quelque chose qui nous enveloppe. C'est très, très étonnant et ça devient hypnotique, comme une très très bonne photo sur laquelle on revient tout le temps, un douaneau. Donc elle interpelle aussi, bon, évidemment, les grands de la photographie, mais de manière très 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 fine. Donc on entend un peu la voix de Susan Sontag derrière. On peut avoir Winogrand Grand dans les années 60-70. On voit un peu toutes ces photos jusqu'à douaneau. C'est ça qui est étonnant. Et d'ailleurs, il y a même une citation au début d'un chapitre qui est une citation de douaneau publiée aux éditions Contre-Jour en 1989. Donc je ne sais même pas comment elle est allée chercher ça aussi. Et du coup, toute cette écriture nous enveloppe petit à petit, nous amène dans l'obscurité et nous fait nous interroger à la suite des récits de chaque personnage sur justement quelle vérité, en fait, ils sont tous pas abominables, mais ils ont des formes de détestation. Donc c'est vraiment pour ceux qui aiment une forme de noirceur, mais pas gratuite. C'est pour ceux qui aiment évidemment une interrogation sur les bouleversements de notre société. Pour ceux qui aiment la photographie et la réflexion sur cet art de la photographie. Et c'est pour ceux qui aiment aussi des écritures extrêmement soignées, avec des personnages très très bien campés, qui peut nous rappeler plein d'autres écritures, hein, comme celle de Margaret Atwood. C'est très très belle réussite, très très bon roman, quoi.
Ben on a du grain avec le petit astronaute, hein, Jean-Paul Head, la bande dessinée ou méta-bande dessinée, et donc Point de fuite, signé ou shooté par Elisabeth Brandage aux éditions Quai Voltaire. Les animations vont reprendre ici une petite quinzaine de jours ici à la librairie Caractère Social Club, ce qui vous donnera peut-être un petit peu de temps pour aller voir votre ami Jules Thévenot ce samedi 14 janvier à 14h, hein, du côté de la médiathèque du Marsan, avant de le retrouver ici
le 26 normalement.
Ah bah c'est déjà calé.
À 18h janvier.
Merci beaucoup Anthony Clément.
Merci à vous et encore bonne année à tout le monde.
J'allais vérifier pour Cambadélis.